Il y a quelques mois, en conseil de notre Église, nous nous disions qu'il serait bien d'utiliser ce lieu assez bien situé dans Montpellier, qui avait été pensé au départ pour faire partie de ces lieux de socialisation du centre-ville de Montpellier, entre l'Embarcadère, comme on l'appelait autrefois, et puis cette place maintenant de la Comédie, où était érigé le théâtre de la ville, l'opéra. Avoir un lieu qui permettrait de pouvoir penser la vie en commun, penser la cité. Alors c'est un lieu où on vit selon la grâce et la paix, mes chers amis. Alors on s'est dit que ça serait idéal pour entretenir des dialogues qui soient des dialogues de paix. On s'est dit que ça nous manquait de nos jours. On a beaucoup de débats, beaucoup de choses clivantes, beaucoup d'affrontements, et on se disait que ce qui nous manque, ce sont les dialogues où il y a de la grâce et de la paix. Alors, pour la paix, ça va être le principe de ces dialogues où il n'y a pas de décision à la fin, il n'y a pas de vote, on n'a pas besoin de trouver une majorité, il n'y aura pas d'amendement. Pour la grâce, c'est Ariane Chemin ce soir. Elle nous fait la grâce de venir alors que son emploi du temps est quand même assez épouvantable. Dans quelques heures, un départ pour un nouveau reportage dans l'Europe centrale, l'Ukraine.
Oui.
Autant dire que c'est quand même pas la perspective la plus simple à organiser. Et elle nous fait quand même la grâce d'être là ce soir. Alors, nous la connaissons pour ses enquêtes, pour ses reportages, pour ses livres. J'en profite pour remercier le directeur de la librairie Sorams qui tient un comptoir de livres, où il y a à la fois des livres sur la liberté et puis des livres d'Ariane Chemin, ce qui vous permettra de les acquérir et puis de les faire signer à la fin. Il y a notamment un livre assez étonnant sur le mariage secret de Romain Gary. Il y a aussi un livre sur Kundera. Ça, c'est la partie un peu moins connue d'Ariane Chemin. Le plaisir de la lecture, le plaisir de ses histoires littéraires. Et puis, vous connaissez aussi son talent pour les enquêtes, avec un caractère assez social. Alors, les deux derniers sont consacrés à l'épisode du Covid, avec le Patient Zéro, avec Raoult, la folie française. Et puis aussi, ce livre sur la communauté, la ville de Trappes, beaucoup de trajectoires qui s'y croisent, un lieu intéressant pour observer un aspect de la communauté française. Et au fond, je trouve qu'Ariane Chemin est un bon exemple de quelqu'un qui est pleinement journaliste et qui est pleinement une illustration de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. C'est la raison pour laquelle, dans nos réflexions en conseil d'église, lorsque nous nous sommes dit que ce serait bien d'avoir quelques réunions, quelques dialogues sur la liberté qui nous semble si malmenée depuis quelques années, il serait opportun de commencer par cette liberté qui est finalement la liberté fondamentale, la liberté d'expression, qui s'incarne à la fois par la liberté d'aller et de venir, donc d'aller en Corse pour observer la bibliothèque d'Ivan Colonna, d'aller en Ukraine pour y rendre compte de ce qui se passe, dans les quartiers un peu compliqués aussi, et puis la liberté de parole, pouvoir rendre compte seul, parfois aussi avec votre complice Raphaël Baquet. Et puis, on suit souvent dans le monde, là où vous écrivez régulièrement, des enquêtes qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur notre société. Il y avait bien sûr l'affaire Benalla qui avait surgi il y a quelque temps. Il y a la question pourquoi un humoriste, Guillaume Meurice, voit la publication de son livre suspendue. Et puis récemment, vous faisiez preuve de générosité en parlant du livre de Vergara sur Buchenwald, qui avait été ignoré pendant longtemps et que vous avez en quelque sorte ressuscité. Alors, beaucoup de raisons pour lesquelles il était important que vous soyez là, et vous avez répondu présent par grâce seule. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'inviter.
Et je me disais que on pourrait organiser notre soirée en deux parties. Tout d'abord, un dialogue, c'est ce que vous avez vu sur l'affiche. Je vais essayer, en tant que théologien, de l'interroger sur son métier. à la fois qu'est-ce qu'être journaliste, grand reporter pour ce qui la concerne, et puis pour la question de la liberté, essayer de voir quelles sont les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse, quels sont aussi les éléments qui peuvent être un facteur d'encouragement de la liberté. Et puis dans un troisième temps, peut-être voir comment la presse, les médias sont au service de la liberté, des libertés. Je profite pour saluer Frédéric Maillet, qui est journaliste au Midi Libre, qui a fait d'ailleurs un très gentil papier sur vous pour votre venue. Ça va se jouer avec elle, ça se jouera avec d'autres aussi. Dans une deuxième partie, justement, la parole vous sera donnée et vous pourrez poser toutes les questions que vous avez, qui vous titillent et que vous avez à cœur de poser. Alors, je commence tout de suite ce dialogue. J'ai essayé de me dire dans la Bible si on avait l'équivalent des journalistes. La Bible, où il n'y a pas trop de médias, où il n'y a pas trop de journalistes a priori, j'ai pas lâché l'affaire et je me suis dit que la figure biblique qui correspondait le mieux aux journalistes, c'était le prophète. Alors le prophète, c'est pas simplement celui qui prédit l'avenir en quelque sorte. Le prophète, à mon avis, dans la Bible, c'est celui qui débusque le réel. C'est-à-dire que tout le monde a son opinion, tout le monde a un bout de la réalité. Et le prophète, lui, c'est celui qui observe le réel. Non pas simplement l'opinion populaire, non pas l'opinion commune, mais qui va chercher les signes des temps, qui va les interpréter et qui va donner du sens. Alors je me demandais si Ariane Chemin se sentait un peu l'âme d'un prophète, parfois.
Alors prophète, si c'est pour essayer d'expliquer ce qui va se passer, non, parce que même si je n'ai pas fait d'école de journaliste, la règle du journaliste, c'est de ne jamais écrire au futur. Moi, dès que je vois un futur, quand il m'arrive de relire deux, trois des articles comme ça, hop, je gomme le futur, justement, parce que le futur n'est pas le temps du journalisme. C'est le présent, le temps du journalisme. Donc, prophète, au sens premier, celui qui prophétise, qui parle avant, non. Mais en revanche, celui qui observe le réel, oui, parce que c'est ça le journalisme. Et c'est vrai que parfois, quand on est journaliste, on se sent aussi... l'âme d'un écrivain, beaucoup écrivent des séries, de plus en plus les journées se diversifient. Et en fait, moi, je crois que j'aime trop mon métier pour avoir envie de faire autre chose que ça. C'est-à-dire que j'ai aucune imagination, donc je n'écrirai jamais un livre. Je trouve que je suis fascinée par la matière que nous offre la vie réelle. Et donc, en revanche, je crois que je ne suis pas capable d'inventer. C'est assez rare, en fait, peut-être pour qu'on le souligne, c'est que je crois que chaque jour qui passe... non seulement ma passion ne s'émousse pas, mais peut-être même qu'elle grandit. C'est-à-dire que j'aime toujours autant ce métier. En revanche, ce qui a pu changer depuis peut-être 20 ans, c'est que avant, je faisais jamais de grandes théories sur le journalisme, j'employais pas des grands mots, je me sentais pas investie d'une mission, jamais. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, ce qui se passe tous les jours, avec la mise en cause du réel, de l'information, de l'objectivité, eh bien, hélas, je dois dire que oui, le journalisme est peut-être devenu un métier d'engagement, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
Alors, je reviens quand même sur cette...
On ne vous entend pas très... Moi ?
Est-ce qu'il faut rapprocher le micro ?
Oui. D'accord, je rapproche le micro, d'accord. Alors, je ne sais pas.
Alors, peut-être juste en le mettant au niveau du menton.
D'accord. Voilà.
C'est mieux ?
C'est mieux, comme ça.
Bien. Merci, parce que ce serait dommage de ne pas profiter de la soirée. Alors, effectivement, le prophète n'est pas forcément celui qui prédit l'avenir. Il parle souvent au présent en essayant de replacer le roi, par exemple, ou le peuple, devant des valeurs absolues, devant ce qui devrait être constitutif de sa vie commune, de ce qui devrait être constitutif de son organisation sociale, pour lui dire, là, il y a quelques manquements, il y a quelques oublis de ce qui est fondamental. Au fond, replacer le lecteur devant le fondamental. Est-ce que c'est un peu ça, du coup, le travail ?
Alors, que je puisse avoir des indignations personnelles, évidemment. En revanche, je fais toujours très attention à différencier. Je pense que le journaliste n'a pas à être un procureur, le journaliste n'a pas à être un policier, mais que j'ai des indignations personnel et que, pour ces, et que j'ai davantage envie d'écrire sur certains sujets parce que je suis indignée, évidemment. Mais en revanche, j'ai fait en sorte de raconter ce qui m'indigne sans que ma propre indignation soit perspective, soit perceptible. Donc oui, effectivement, il y a mille raisons de s'indigner aujourd'hui. Je pense que, par exemple, moi qui ne suis pas du tout une reporter qui fait de l'international, etc., pourquoi je vais en Ukraine pour la seconde fois? Parce que je me disais, j'ai appris la guerre en Europe dans mes livres d'histoire, elle est aujourd'hui à nos portes, et je ne me sentais pas capable de ne pas y aller. D'une certaine manière, je me suis dit, mais ça se passe devant, j'ai lu 1000 livres sur les années 30, sur la montée, j'ai appris évidemment la guerre de 14-18 dans les livres d'histoire, celle de 40, je me suis passionnée pour des livres qui racontaient comment la presse s'était comportée entre 36 et 40, et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai pas envie de vivre dans l'histoire, là, ça se passe sous mes yeux, je veux y aller, c'est peut-être ça.
Alors, justement, parlons de l'Ukraine pour évoquer la question de la méthodologie des journalistes. Finalement, nous qui ne sommes pas en Ukraine, on est tout à fait dépendants des médias. Or, si on regarde ce que les médias nous offrent comme information sur la situation en Ukraine, on voit qu'il y a quand même des informations contradictoires. Je dirais, avec la théologie, il y a un conflit des interprétations. Comment est-ce qu'en tant que reporter, on assume le fait que les médias, finalement, déploient des informations qui parfois sont contradictoires les unes par rapport aux autres?
Bon, d'abord, la guerre, vous le savez tous, c'est les moments de propagande. Non, chaque fois qu'il y a une guerre, les deux participants utilisent la propagande. Donc ça n'a pas changé. Évidemment que la Russie fait de la propagande, évidemment que l'Ukraine fait aussi de la propagande. Mais la différence, c'est qu'avec cette guerre-là, par rapport, je pense, à d'autres, c'est que c'est une guerre qui ressemble à une guerre du XXe siècle. Moi, j'étais frappée de me promener dans des forêts entières où on voyait des tranchées avec ce qui restait du passage des Russes, par exemple, au mois de mars. On voyait toujours la même chose, des bouteilles de vodka, la portion de l'officier russe, de la poudre qu'il faut déléguer dans de l'eau. Je voyais ça et j'avais l'impression de lire un récit sur la bataille de la Somme en 1916. Ça m'a frappé. Donc on a à la fois ce choc d'une guerre qui ressemble à une guerre très ancienne, et puis en revanche, c'est la première guerre qu'on vit en temps réel sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a les images en direct. Jamais on a vécu une guerre de cette manière-là. Voilà. Donc, heureusement, donc c'est évidemment, il y a une guerre de concurrence. Je pense qu'il est quand même assez vrai que une grande majorité de la population russe croit effectivement Poutine quand il dit qu'il fait une guerre juste. Ça se voit dans les reportages qu'on lit. Il y a quand même très très peu de Russes qui sont partis ou qui résistent, etc. Je vous conseille d'ailleurs un petit livre que j'ai lu très récemment dans la collection POL qui s'appelle Zombie et qui raconte le comportement de la population russe face à ses propres médias. Et en expliquant que voilà, ça dure depuis des décennies, quoi. C'est la prolongation de ce qu'ils avaient pu vivre en Union soviétique. Et puis, en revanche, l'Ukraine, qui est une nation plus moderne, moi, ce qui m'a frappé en arrivant à Kiev, c'est que c'est une ville très, très jeune, très moderne, beaucoup plus branchée que Paris, où tout le monde a son iPhone, y compris, d'ailleurs, qu'on pose sur la table du café, parce qu'il y a les alertes il y a une application qui donne des alertes en temps direct, parce qu'il y a une autre application qui donne les abris, parce que chacun a ses papiers d'identité dans son iPhone, c'est-à-dire on perd son permis de conduire. Ici, il faut parfois 3 mois pour le refaire, là-bas, c'est immédiat. Donc, une nation très moderne. Et donc, il y a eu ce choc-là aussi, un choc presque entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Donc, quel est le rôle du journaliste là-dedans? Évidemment, raconter ce qu'il voit. Alors, évidemment, toute la difficulté de savoir, plus que jamais, on doit se dire d'où parle ce journaliste, sur quel média il s'exprime. Si c'est sur un média russe, évidemment, il faut avoir de la méfiance. Et ça demande, en fait, de plus en plus d'intelligence de la part de la population et des individus. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on me raconte. Et c'est ça qui est intéressant.
Par exemple, nous, pour savoir qui est Jésus, on a choisi de prendre 4 sources différentes. Pour les journalistes, il faut combien de sources différentes pour que l'information soit fiable?
Il en faut 2. Alors, tout journaliste fait des bêtises. Et moi, je cite toujours cet exemple quand je vois des jeunes journalistes qui arrivent. Vous avez quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est bienveillant, qui vous veut du bien, et qui dit « Je t'assure, j'étais là à cette réunion, un tel a dit ça. » Et pour me faire avoir une fois ou deux, évidemment, je ne recommencerai plus jamais cette erreur. De bonne foi, les gens peuvent vous tromper. Le mieux, c'est quand même d'avoir deux sources. Parfois, c'est difficile si vous racontez... Je ne sais pas, vous racontez un conseil des ministres, hein, par exemple, c'est mieux d'avoir deux sources parce que même sans mauvaise intention, quelqu'un peut vous tromper. Voilà, ça c'est pour raconter, pour faire un récit sur quelque chose d'un peu intime. Là, je travaille un peu sur une histoire de. Je fais une enquête sur la personne qui peuvent conseiller Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine et la guerre quand. Qu'a intenté la Russie à l'Ukraine. Là, c'est difficile parce que vous avez affaire à des diplomates qui n'ont pas le droit de parler. Ce sont des réunions dont on ne connaît même pas forcément l'existence. Donc, c'est difficile, mais deux sources, c'est mieux.
Oui, parce que, en fait, pour nous, deux personnes qui participent à un conseil des ministres, ça ne serait qu'une source. En fait, c'est le même flux.
Oui, mais c'est deux sources quand même.
D'accord. Deux locuteurs, en tout cas.
Voilà, deux locuteurs.
Alors, pour ce qui concerne la liberté de la presse et éventuellement ce qui la menace, sans avoir besoin d'être théologien, on est assez conscient que les journalistes sont un peu entre le marteau et l'enclume. Et parmi les marteaux, il y a tout d'abord les patrons de presse qui sont tenus par les actionnaires. Je ne sais pas ce qu'il en est quand on est journaliste, mais quand on est lecteur, on a l'impression que c'est extrêmement coercitif, en fait, le poids des actionnaires ou de l'actionnaire majoritaire.
Plus les médias se concentrent, plus c'est coercitif. Alors, moi, je peux vous parler de mon exemple personnel et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais pourtant, j'essaie de...
On a quelques sources contradictoires.
Voilà. Mais j'ai la chance de travailler dans un journal où je n'ai jamais senti la pression des actionnaires. C'est-à-dire que je n'ai pas de souvenir qu'on m'ait dit « Non, ça, c'est pas possible, ça, tu ne peux pas écrire ça, de recevoir un coup de téléphone, je peux après voir des gens mécontents, etc. » Mais j'ai un exemple précis en tête quand Le Monde a été racheté à un moment par trois actionnaires, parmi lesquels Mathieu Pigasse, qui était très, très proche de Dominique Strauss-Kahn. Avec le recul, je me dis, s'il en est sorti maintenant, mais s'il a voulu rentrer dans l'actionnariat du Monde, c'était quelques mois avant que Dominique Strauss-Kahn décide de se présenter à l'élection présidentielle, c'est qu'il avait peut-être une idée en tête. Or, je pense que le journal qui a le plus écrit, raconté, etc., sur les déboires de Dominique Strauss-Kahn, pas seulement aux États-Unis, mais aussi le Carlton, ça a été Le Monde. Et je pense que Mathieu Pigasse, il devait être dingue, parce qu'il voyait des unes avec des procès-verbaux, des choses comme ça. Et donc... On voit que ça n'a pas eu de prise. Mais en revanche, je pense que les actionnaires, ils n'achètent pas forcément des journaux seulement pour les contrôler. Ils les achètent pour se donner un statut. Acheter un journal, ça vous permet d'être reçu de temps en temps par le président à l'Élysée, par exemple. C'est ça aussi ce qui peut motiver des hommes. Voilà. Alors moi, je suis ravie qu'on ait des actionnaires riches. Moi, ça me permet de repartir en reportage comme je veux. Je vois bien par rapport à d'autres confrères de médias moins de chance. Jamais on m'a dit non, c'est trop cher, tu ne peux pas aller là. Parfois, je fais deux allers-retours parce que je ne suis pas contente de ce que j'ai entendu ou recueilli, etc. On n'a pas de contraintes, mais je pense que l'année prochaine va être plus difficile parce qu'il y a mille choses qui s'annoncent. La hausse du prix du papier, la baisse... Nous, on a cette chance à peu près que pour à peu près un abonnement papier qu'on perd. On n'en a plus beaucoup au fond. Hein. Le Monde n'a plus que 100 000 lecteurs. Mais on a 400 000 abonnés web qui compensent, qui rajeunissent. Donc moi, j'ai cette chance. Je vais pas certainement pas... Ce n'est pas parce que je suis devant vous. Mais je ne vais pas me plaindre de mon actionnaire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, par contre, la crainte qu'on perde nos lecteurs? Et du coup... En quelque sorte, écrire pour flatter le lecteur ou pour lui offrir ce qu'il a envie d'avoir, notamment du côté du sensationnalisme, de tout ce qui peut faire le buzz et qui n'est peut-être pas forcément pile-poil dans l'éthique du journaliste.
Bon, d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est que je rencontre souvent des gens qui me disent « Ah, alors je voulais vous dire, je ne lis plus Le Monde depuis 1970, 1980, 1990, parce que... » Alors, il me cite un article, etc., ou alors je vois beaucoup de gens qui disent je ne supporte plus votre journal parce que, puis vous me dites, ben alors dites-moi ou alors qu'ils le critiquent et je me rends compte qu'ils ne sont pas abonnés, qu'ils ne le lisent pas, qu'ils n'ont pas d'article à me citer. Donc il peut y avoir aussi. Voilà, c'est, on a vu depuis les années 90 que toutes les institutions puissantes ont été bouleversées. Ça a été d'abord les politiques. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire du journalisme politique, je pense que l'opinion et les journalistes n'avaient pas le même rapport aux politiques. Aujourd'hui, il faut du courage pour faire de la politique, parce que il faut même du courage pour être maire. Vous êtes responsable de tout. Moi, j'ai de l'admiration pour les politiques, parce que je pense que c'est un métier de chien. Mais je vois bien qu'ils ont été déstabilisés. Ensuite, c'est l'institution judiciaire qui a été déstabilisée. Et puis ensuite, il y a eu les journalistes. Et je pense que c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit autant de mal des journalistes, et en même temps, quand vous êtes dans une classe de terminale et que vous demandez « alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?», vous avez la moitié de la classe qui dit « je vais être journaliste ». Donc c'est paradoxal.
Certainement, une des menaces qui pèsent aussi, c'est tout simplement la menace de la violence, du terrorisme. Les journalistes peuvent être quand même pris à partie. On n'a peut-être pas ça en France, mais est-ce que, au même titre que de plus en plus les politiques sont menacés, les journalistes ne sont pas aussi menacés personnellement? Je ne parle même pas des attentats terroristes de Charlie Hebdo, mais au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pression de quelques-uns, de personnes, d'individus qui peut être assez effrayante?
D'abord, concrètement, Charlie Hebdo, ça a marqué la profession, puisque on ne travaille plus exactement dans les mêmes locaux qu'avant. C'est-à-dire que moi, depuis Charlie Hebdo, par exemple, dans les journées du groupe Le Monde, on a 36 000 passes pour rentrer dans un bureau, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça a changé concrètement les choses. À partir du moment où on a tué des journalistes, ça a changé les choses. Pour le reste, c'est intéressant parce que, en fait, évidemment, on pense à beaucoup de cas où telle personne religieuse ne veut pas rencontrer une femme. Ça existe, hein, ou ne veut pas recevoir une femme qui n'est pas voilée, ou des choses comme ça. Mais à vrai dire, ces choses-là, on les vit tous les jours, dans tous les domaines. À chaque rencontre avec quelqu'un, il faut réfléchir, se fabriquer sa petite morale. Moi, je me souviens d'avoir été reçu avant qu'il ne meure, par le négationniste Robert Faurisson. Dans sa maison, il habitait à Vichy, ce qui n'est quand même pas banal. Et je me souviens très bien que, c'est idiot, mais je me souviens de cet exemple, il me reçoit dans une maison très coquette, il y avait, je me souviens, des petits napperons en crochet, et il me dit, est-ce que je vous sers une orangeade? Bon. Donc, j'ai beaucoup réfléchi pour savoir si j'allais accepter l'orangeade de Robert Faurisson. C'est pas si simple. Hein. Voilà, donc à chaque fois, c'est un peu vrai pour tout. On se pose des questions. Est-ce qu'il y a un moment où on doit partir dans l'entretien parce que quelqu'un vous parle très très mal, ou voilà. Donc en fait, ce que je disais d'ailleurs à mon confrère de Midi Libre, c'est que c'est peut-être en ça, peut-être d'ailleurs, qu'une éducation religieuse, qui était mon cas puisque j'ai été à l'école du dimanche, etc. Chacun se bricole sa petite morale personnelle. Par exemple, moi, je sais que je n'enregistrerai jamais quelqu'un à son insu, mais j'ai certains confrères qui le font. Moi, je sais que je ne le ferai pas. Bon, voilà. On se bricole sa petite morale.
Mais ma question, c'était aussi de savoir s'il n'y avait pas des moments où on est en train de débusquer une affaire et on se dit, il pourrait y avoir des barbouzes derrière. Et peut-être qu'il faut que j'arrête.
Non, alors moi, je pense plutôt à la responsabilité qu'on peut avoir quand on se dit, mais peut-être que cette personne sur laquelle je vais écrire ne va pas s'en remettre. Ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je me souviens très très bien. Bon, là, c'est pas tout à fait pareil parce qu'il y avait un livre qui préexistait. Mais par exemple, quand Camille Kouchner a écrit son livre sur son beau-père, Olivier Duhamel, moi, on m'avait confié le livre avant pour que j'en parle comme objet de révélation, quoi. Et donc, j'avais dû faire une enquête avant même que le livre sorte. Et c'était un grand secret. Donc, il fallait que je rencontre son frère jumeau, que je vois la famille, etc. Et puis, on avait décidé de le publier tel jour. Et donc, la veille au soir, j'ai dû appeler Alain Duhamel. Et c'est moi qui lui ai appris qu'il y avait un livre qui sortait et tout ça. Et je peux vous dire que c'est pas marrant. C'est-à-dire que je n'ai pas de jouissance à apprendre quelque chose comme ça à quelqu'un. On est obligé de s'interroger. Moi, je me souviens, il m'a posé des questions. Il me dit, est-ce que vous pouvez me dire quand ça va sortir? Je n'avais aucune envie de lui mentir en lui disant, ça sortira dans 3 jours, alors que ça sentait le lendemain. Bon, alors évidemment, c'était pas moi qui avais enquêté là-dessus, c'était un livre de Camille Kouchner, donc j'étais en deuxième main d'une certaine manière, mais forcément on y pense au traumatisme qu'on peut provoquer chez certains, ou c'est quelque chose auquel on est forcé de réfléchir.
Donc plusieurs fois, vous dites que chacun se fabrique son éthique personnelle, en quelque sorte. Alors les prophètes, eux, la construisent justement face à Dieu. Hein, si je reprends l'expression de Martin Luther, coram Deo, face à Dieu, c'est-à-dire que je me mets face à l'absolu, face à ce qui est inconditionnel, et à partir de là, je peux hiérarchiser ce qui m'arrive, je peux donner du sens, de la valeur. Pour un journaliste, du coup, comment on la construit, cette éthique personnelle ou cette morale personnelle ? Qu'est-ce qui la fonde ?
Alors ça, c'est une question très difficile, parce que souvent, quand les années sont passées, qu'on pense à ce qu'on a pu retirer d'une forme d'éducation. Moi, je pense qu'au fond, mais je me rends compte que maintenant, parce que je crois que quand j'étais adolescente, j'avais un peu un rejet, parce que j'avais une éducation protestante assez stricte, mon grand-père était pasteur, encore que je pense que j'ai acquis le goût des voyages de lui, parce que c'était un pasteur voyageur, mais c'était pas quelqu'un qui avait une paroisse, mais il voyageait partout. Mais bon, et aujourd'hui, je sais ce que je dois, je me rends compte, alors je ne veux pas non plus être trop grandiloquente, mais je vois ce que je peux devoir à cette éducation. Je ne sais pas, je pense, j'ai l'occasion de rendre un hommage à mes parents, après tout, hein, c'est pas si, on n'a pas souvent l'occasion, mais je sais que mes parents ne mentaient pas, j'ai un souvenir très précis d'une invitation qu'ils avaient faite à la maison où quelqu'un avait tenu des propos antisémites et mes parents n'avaient pas laissé passer, je crois que l'invité était parti. J'ai des souvenirs maintenant de ça qui, sur le moment, ne m'avaient peut-être pas forcément marqué. Et puis je crois peut-être aussi, alors ça, je pense que quand on fait du journalisme politique, je pense que ça m'a inconsciemment beaucoup animée. Enfin, vous connaissez ça d'une fois mieux que moi, James, mais quand on est protestant, on n'a pas le même respect d'une hiérarchie verticale, peut-être, que quand on est... Quand on la met en question, on la met à distance, on l'interroge. Et ça, je pense que quand j'ai fait du journalisme politique, ça a été très important. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais aujourd'hui, je me dis ça. C'est-à-dire que je n'avais pas, à la fois, j'ai un immense respect pour les politiques, mais je n'ai pas un respect... Leur hiérarchie n'est pas pour moi...
Il n'y a pas de soumission.
Non, il n'y a pas de soumission.
Ni de fascination par rapport au pouvoir qu'on exerce.
Aucune.
Mais alors, ça, effectivement, c'est un peu le propre de ceux qui se tiennent face à quelques absolus. Ça évite la fascination du pouvoir, ça évite d'être subjugué par le pouvoir de l'argent aussi. J'imagine que des fois, on a dû essayer d'arranger un peu les choses, peut-être, avec soit des bakchiches, soit des avantages qu'on pouvait permettre.
Non, franchement, de temps en temps, les gens qui ne connaissent pas les habitudes du monde... ou disent voilà, non, franchement, j'ai jamais été. J'ai toujours refusé les cadeaux, mais enfin, on n'en a pas fait beaucoup non plus. Ça me faisait toujours rire, on plaisantait dans le journal parce qu'on voyait dans certains services où on s'occupe plus de luxe, de beauté, etc., on voyait toujours des cadeaux arriver. Je me disais, pour rire, je disais, mais moi j'aimerais bien avoir des cadeaux comme ça, mais je ne reçois qu'une seule chose, c'est un paquet de noix du député de l'Isère depuis 25 ans. Non, donc il n'y a pas beaucoup de résistance à opposer. Voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une résistance à opposer face à quelque chose qui est peut-être un peu plus sournois ? Ce sont les systèmes de fidélité. C'est-à-dire système de fidélité par rapport à des gens qui seraient des coreligionnaires. On a parfois parlé de la franc-maçonnerie. Il peut y avoir des connivences d'idéaux ou d'histoires personnelles. Comment on s'en sort de ça ?
Ça, c'est vrai. Ça, c'est le plus difficile. Et c'est pour ça que parfois, quand on me dit « oui, la presse corse, il raconte rien », pour bien connaître cette île, je les comprends. C'est très compliqué de parler de quelqu'un quand vous le croisez le lendemain sur le trottoir, quand vous avez pour ami d'enfance. On croit que c'est une caricature, mais non, c'est très compliqué. Moi, je me fixe quelques règles. Quand je connais très bien quelqu'un, je n'écris pas sur lui. Je me souviens très bien, par exemple, je suis très amie avec Irène Frachon, depuis qu'on est en sixième, et quand elle avait commencé à me parler du Mediator, on s'était dit toutes les deux, c'est pas une bonne idée. Je m'étais dit, c'est pas une bonne idée que j'écrive dessus. D'abord, peut-être que ça pourrait pu générer des conflits d'amitié, ce qui n'est jamais très intéressant. Mais voilà. Ou par exemple, je repense à cette histoire d'Olivier Duhamel. Je me souviens que la direction du journal m'avait dit, voilà, on va te parler d'une histoire, quelqu'un qui est accusé d'inceste par sa belle-fille. Et est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit, moi. Il y a une chose, évidemment que ça m'intéresse, mais si je connais bien la personne, je ne ferai pas l'article. Et je l'avais rencontré une fois, donc j'estimais que, voilà. Non, c'est trop compliqué d'être... Voilà, je sais qu'il y a des choses des portraits que je ne ferai jamais, des choses comme ça, parce que je connais les personnes, ou parce que, effectivement, on peut être pris... le protestantisme, je ne sais pas, je sais que l'année dernière, pour la première fois, il y avait la Fédération protestante de France, enfin non d'ailleurs, oui, qui avait organisé une sorte de dîner des protestants, un peu comme un dîner du CRIF. C'était la première fois, je crois qu'il y en a un deuxième cette année d'ailleurs. Et donc là, j'avais rencontré plein, ça m'avait beaucoup amusé parce que j'y suis quand même allée un peu avec mon œil de journaliste, c'était drôle. Et il recevait d'ailleurs Emmanuel Macron, voilà, c'était très intéressant. Mais après, j'ai revu plusieurs fois des personnes qui étaient là, qui m'avaient... Et c'est vrai que, bah, je peux le dire, enfin, je ne sais pas si je dois le dire, enfin, je leur ai un peu rentré dans le chou en disant « Je trouve que sur la présidentielle, vous avez été lamentable, je trouve qu'on n'a pas assez entendu une voix protestante qui dirait il y a une personne ou deux personnes pour lesquelles il ne faut pas voter. » Je trouvais que c'était un peu flou. On disait « Chaque protestant en son âme et conscience, je vais me faire plein d'ennemis, hein, doit savoir pour qui il doit... » Mais c'était trop flou pour moi, j'ai regretté ça et je leur ai dit, par exemple.
Est-ce qu'on attendrait des journalistes que eux ne soient pas trop flous justement sur cette question-là ? Ou est-ce qu'au contraire, le journaliste doit rester à distance et ne pas donner de préférence pour tel ou tel candidat ou pour telle ou telle idéologie ?
Eh ben, de toute façon, là, c'est pour le coup, ce n'est pas du tout mon rôle, c'est le rôle des éditorialistes ou d'un directeur de journal. Nous, on a fait, en général, on fait, dès que l'extrême droite est présente au second tour, on fait un éditorial dans Le Monde pour expliquer que, voilà, il y a un candidat d'extrême droite. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose qui se joue. Aujourd'hui, moi, ça me frappe parce que ça fait quand même longtemps que je fais du journalisme politique un peu. Aujourd'hui, la bagarre, elle se fait sur les mots. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire de quelqu'un qui est, on ne peut plus dire que quelqu'un est d'extrême droite, tout le monde hurle. Et d'une certaine manière, ça infuse dans le cerveau des journalistes quand vous vous faites engueuler à chaque fois parce que non, comment tu peux dire qu'un tel est d'extrême droite ? On a l'impression que la France n'a jamais été aussi extrême et pourtant on n'a plus le droit de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun parti qui serait... Voilà, donc il faut... Ça, c'est un défi. Hein. Mettre des mots sur les choses, c'est un défi.
Alors, on parlait de l'éthique personnelle qui permet de résister à bien des choses. Moi, j'aurais tendance à dire... Peut-être que la foi, c'est aussi ce qui permet de lutter contre la raison d'État. C'est-à-dire à la fois la question du secret défense et puis que des personnes pourraient être sacrifiées au nom de l'intérêt supérieur de la France. Résister à cela, est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie aussi du bagage des journalistes où on s'incline devant la raison d'État ?
Non. Ben, je pense que le meilleur exemple, c'est le combat qu'avait amené Irène Frachon. C'est vraiment David contre Goliath. C'est-à-dire qu'elle elle s'attaque à...
Mais là, c'est un laboratoire, c'est pas la raison d'État, c'est pas la France, madame.
Non, mais par exemple, moi, j'aime pas quand j'entends des journalistes qui disent nos armées ou nos troupes ou notre pays. On dit pas ça, on dit la France, les soldats français. Voilà,
Notre équipe de France au Qatar.
Voilà. Donc,
on le dit pas non plus.
On le dit pas, non, enfin, moi, je le dirais pas. C'est-à-dire qu'il faut mettre un petit peu à distance. Oui, je voilà.
Il y a notamment dans le protestantisme quelque chose qui a été développé à partir de Sébastien Castellion, c'est le droit à l'erreur, la question de l'errance. Alexandre Vinet disait « Là où le doute n'est pas possible, la foi n'est pas permise ». Et je dirais « Là où l'erreur n'est pas possible, on n'a aucune chance d'accéder un jour à la vérité ». Est-ce que du coup, il faut que les sociétés de rédaction des journalistes envisagent le droit à l'erreur comme partie intégrante du métier ? Est-ce qu'il faut
Le doute, c'est déjà pour chacun. Hein. Le doute, je crois qu'il grandit même à mesure que les années passent. Moi, je me dis, mais comment... je me dis parfois, comment je peux me réveiller trois fois dans la nuit avec le ventre noué en me disant, mais j'espère que je ne me suis pas trompée sur telle chose, etc. Évidemment qu'on se trompe et il faut toujours être habité par... par le doute, sur l'interprétation, les détails, etc. Ça doit habiter chacun. Et puis, le droit à l'erreur, je pense que l'intérêt d'une collectivité journalistique, c'est de se parler. Alors, il y a peut-être quelque chose qui m'inquiète, c'est que je crois que depuis le Covid, on est moins en communauté. On se voit moins, on se parle moins. Alors que c'est essentiel, je pense, au bon fonctionnement d'un journal, enfin d'une rédaction, parce que je parle de presse écrite, mais aussi c'est comme ça qu'on... Je pense que, d'abord, le débat, mais parler d'un sujet avec quelqu'un, moi, je le fais toujours, parce que parce que ça enrichit, parce que ça évite des erreurs, parce que parfois vous écoutez quelqu'un. Moi, je parle beaucoup avec Raphaël, par exemple, on n'est pas toujours d'accord, mais on s'écoute, on se dit, tu crois, oui, tu as peut-être raison, ah bah d'accord. Je pense que c'est essentiel, ça doit être un métier de doute. C'est pour ça que, voilà, moi, je suis toujours fascinée par... mais je ne veux pas me donner l'impression de critiquer, mais par ces plateaux qui sont gagnés. Maintenant qu'on a énormément de chaînes Tout Info, ce qui est quand même d'ailleurs une particularité française par rapport à ses voisins européens, on a beaucoup de chaînes Tout Info qui n'ont pas forcément des gros budgets. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de produire des programmes, fabriquer des programmes, on fait des débats, ça coûte beaucoup moins cher. On invite des débatteurs, c'est gratuit. Et là, on a des tas de personnes qui n'ont pas peur de passer pour des experts, qui ne connaissent rien à rien et qui débattent. Ça, je trouve ça dangereux.
Et du coup, la question qui se pose, je trouve, c'est celle de la pluralité des médias. On est en train de dire que 90% des médias seraient détenus par 9 personnes. Peut-être que c'est encore en train de se réduire. Est-ce que ça, c'est pas quand même un handicap majeur pour la liberté de la presse, le fait que de plus en plus, il y ait une sorte d'hégémonie?
Alors, je dirais que... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le journalisme, c'était l'époque où on parlait du papivore hersant. C'était la terreur. On avait tous très peur d'Hersant. On pensait qu'il avait tout mangé, que toute la presse appartiendrait à Hersant. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. En revanche, aujourd'hui, moi, ça me passionne, et mon ami Raphaël aussi, on y travaille beaucoup. Ce qu'est en train de faire Vincent Bolloré dans la presse, oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que c'est à la fois... Ce qui m'inquiète, c'est aussi bien la brutalité du management, où les gens sont virés sans trop d'explications, qu'une espèce de mainmise aussi idéologique, hein, qui on l'a bien vu lors de la dernière campagne. C'est nous, c'est quand même pas une chaîne anodine. Alors par exemple, ça fait partie des débats qu'on a entre journalistes. Est-ce que moi, je sais que plusieurs fois, on m'avait invité. Moi, je sais que je ne mettrai jamais les pieds à CNews. J'ai l'impression de cautionner quelque chose qui ne va pas du tout. Ben, ça n'a quand même rien à voir. Voilà, donc on a ces débats-là. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu s'exercer comme ça un management brutal et des formes de censure.
Et on dit que finalement, les médias, c'est un peu un quatrième pouvoir, une sorte de contre-pouvoir. Est-ce qu'on a un pouvoir qui arrête ce quatrième pouvoir? Est-ce qu'on a quelque chose qui permettrait de pouvoir justement endiguer une sorte de pouvoir qui serait une emprise des médias qui ferait, qui déferait les rois?
Il y a les lois anti-concentration, Bruxelles veille à tout ça, là, avec la vente d'Editis qui est l'empire de Vincent Bolloré, ils sont en train de surveiller ça de près. Et puis il y a aussi la loi. Hein, on peut être condamné pour... pour diffamation, on est quand même... En plus, les personnes attaquent de plus en plus. Donc oui, il y a quand même beaucoup de garde-fous.
Alors, pour la troisième partie de ce premier moment, c'est en quoi la presse peut être utile pour la liberté. Je pensais à ce que Umberto Eco écrivait au sujet des bibliothèques. Il disait « La fonction d'une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l'existence » et qui s'avère d'une importance capitale pour lui. Est-ce que la fonction d'un grand reporter, ce ne serait pas de découvrir des faits qui étaient jusque-là inconnus pour le tout venant, et qui en fait permettraient d'augmenter sa connaissance de la vie, et ainsi d'augmenter ses degrés de liberté pour moins subir ce qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire mettre en évidence des mécanismes, mettre en évidence des structures pour que, on puisse faire face, qu'on ne soit pas soumis à un ordre des choses qui nous échappe complètement?
Alors si, sans doute, et je pense que c'est ce qui nous avait motivé avec Raphaël pour faire ce livre sur Trapp, parce qu'on assistait toujours à des tas d'engueulades invraisemblables sur l'islam, très dangereux, pas dangereux, l'emprise et tout, et on s'est dit, on ne sait pas, nous, on ne sait pas, on va aller voir. Et en fait, on pensait juste au départ faire un reportage sur la ville de Trapp, et ce qui nous a intéressé, c'est d'y passer du temps, pour faire à travers de ce creuset, qui est cette ville particulière, une sorte de poche de pauvreté dans les Yvelines, un passé industrieux de chemin de cheminots, d'industrie automobile, on a essayé de raconter l'histoire de l'immigration dans cette ville. C'est-à-dire qu'on est parti, des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que, personnellement, j'espère que ça fait du bien. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que... la plus belle définition du journalisme, je pense que c'est d'aller en face, c'est de se confronter à son, là c'était quand même pas le cas, mais à son impensé. très souvent, j'entends des récits et je me dis, c'est mon impensé. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pensé à ça. Et c'est ça qui est intéressant et intéressant à faire connaître au lecteur. Je prends un exemple très récent et complètement anecdotique, mais il se trouve que je vais souvent en Corse et un de mes voisins charmants est le beau-père d'une jeune femme qui a épousé le fils aîné d'Ivan Colonna. Donc la dernière fois que je le vois, il me dit, c'est un détail, hein, mais pour vous montrer, je pensais que je connaissais bien cette société, je me suis dit, voilà. Et il me dit, ah, mais tu sais, il va avoir un bébé, donc voilà. Bon. Et donc quand je le revois récemment, je dis, mais alors raconte-moi, c'était un garçon, une fille. Il me dit, c'est une fille, tant mieux. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et toute seule, il m'a fallu 2 minutes pour me dire, mais oui, bien sûr qu'en Corse, on donne le nom de son grand-père ou de son père. Et c'était quand même un nom difficile, lourd à porter.
Dans le reste de l'Hexagone aussi, à vrai dire.
Oui, dans partout. Non, mais c'est un mauvais exemple, c'est complètement anecdotique. Et voilà, ouais. Mais c'est intéressant d'être confronté à voilà, des choses auxquelles on n'a pas pensé, des vies qu'on ne connaît pas, des schémas de pensée qu'on n'a pas explorés. Ça, c'est intéressant.
Il y a ce phénomène des fake news qui est de plus en plus prégnant. Je crois que beaucoup sont tentés par une sorte de retour à la censure, le besoin de l'exercice de la censure, si seulement il pouvait y avoir au sein du gouvernement le ministère de la censure pour qu'on sache quelle est la vérité, pour qu'on sache quelles sont les bonnes informations. Est-ce que finalement la pratique du journalisme, ce n'est pas exactement l'inverse, c'est-à-dire une liberté d'expression totale, la censure étant le pire ennemi ?
La censure est le pire ennemi, mais on sait bien aussi que la liberté totale, ça peut être la jungle. Ça, je ne sais pas, prenons l'exemple de Twitter avec Elon Musk. Et puis, on sait aussi, par exemple, que la transparence totale, ça peut être justement le totalitarisme. Il suffit de voir des films qui ont été tournés en Union soviétique pour voir ce que c'est. La transparence totale, ça peut être très dangereux aussi. Donc en fait, chaque journaliste, chaque média doit naviguer. Il y a des choses qui ne se montrent pas, non pas parce qu'il y a une quelconque censure, c'est simplement parce que ça ne se fait pas. Il y a des choses qui, bien sûr... Et une liberté totale, ça peut être affreux. Évidemment je le dirais pas philosophiquement, mais heureusement qu'on a dans une rédaction, on a des garde-fous aussi. Non, ça tu ne peux pas dire. Non pas parce que ça déplairait à un actionnaire ou ça déplairait au pouvoir, mais parce que ça ne se fait pas.
Par exemple, dans le livre du Lévitique, il y a l'interdit de la nudité. On ne peut pas voir la nudité de son père, etc. Est-ce que ça ne serait pas l'indication qu'il y a, par exemple, le domaine de l'intime qui pourrait être une limite ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça, c'est la propriété privée d'une personne, c'est sa liberté. En tant que reporter, je m'arrête là.
Alors ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec Raphaël, sur laquelle on a été pas mal interpellés. Parce que d'abord, on voit que la presse française, elle n'a pas du tout réagi comme la presse anglo-saxonne sur ce genre de sujet. C'est intéressant. Ensuite, aujourd'hui, c'est de moins en moins... Moi, je pense par exemple que si l'affaire Strauss-Kahn explosait aujourd'hui, il serait beaucoup moins bien traité qu'il n'a été. Moi, je pense que la presse française s'est retenue. Moi, j'ai lu tout le dossier comme ça, haut comme ça, du Carlton, je pense que la presse française s'est bien tenue. Hein, voilà. Et je ne suis pas sûre qu'elle se tiendrait aussi bien aujourd'hui parce que beaucoup de digues ont sauté, etc. Et puis parfois, alors ça dépend aussi de quel... Il y a beaucoup de gens pour lesquels aujourd'hui la vie privée, c'est politique. C'est beaucoup notamment de militants qui pensent ça. Hein, militants de, voilà. Donc c'est vraiment sans doute aujourd'hui le domaine le plus mouvant dans lequel on s'interroge le plus sur qu'est-ce qu'on dévoile, qu'est-ce qu'on ne dévoile pas. Et je pense que le mouvement MeToo, que je salue parce que journalistiquement ça me passionne, parce que je me dis, c'est moi qui n'ai pas de souvenir de mai 68, c'est la première fois que je vis une révolution, on peut dire que c'est une petite révolution culturelle en direct, où chacun est obligé de s'interroger, revisite sa vie, revisite peut-être les choses qu'il a pu vivre sans en avoir même pris conscience. Ça me passionne, mais c'est vrai que ça chamboule beaucoup de choses dans la façon de traiter justement ce qu'on a appelé vie privée.
Alors il y a aussi un autre sujet qui souvent défraye la chronique, c'est la religion. J'ai l'impression que le traitement de la religion est très compliqué pour les journalistes. Est-ce qu'il y a des discussions sur la frontière entre rendre compte de faits religieux et puis prosélytisme, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des limites ?
Alors c'est drôle que vous me disiez ça, parce qu'on avait fait une série d'articles avec Raphaël justement sur... des grands bouleversements du monde. Et justement, moi, je me souviens d'avoir, d'avoir fait une enquête sur la rubrique religion du monde. D'abord, pendant très longtemps, elle n'avait pas de S. C'est arrivé assez tard. Ensuite, il était évident pendant extrêmement longtemps que ça devait être un catholique pratiquant qui évidemment couvrirait ce champ. Parce que le monde est né après la guerre d'une alliance entre des chrétiens de gauche, voilà, de la démocratie chrétienne. Et donc, pendant très longtemps, ça a été ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y en avait des chroniqueurs religieux dont vous devez peut-être connaître les noms, qui s'appelaient
Henri Tinque,
par exemple, et avant lui, Tesquet, etc. Et aujourd'hui, d'abord, moi je dis souvent, là il y a une jeune journaliste qui vient de prendre cette rubrique, je lui dis, t'as de la chance, je trouve que c'est une des rubriques les plus passionnantes aujourd'hui. Mais c'est foisonnant. La rubrique religion, c'est à la fois les programmes scolaires contrôlés de plus en plus par la droite identitaire, c'est c'est par exemple les évangéliques dans le monde du protestantisme, c'est passionnant, c'est tout, l'islam de France, le retour du religieux ce religieux qu'on croyait mort à la fin du XXe siècle qui revient, etc. Et je pense d'ailleurs qu'on serait assez avisé de mettre deux personnes sur cette rubrique immense. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, d'abord, elle s'est féminisée, cette rubrique, il n'y a pas de longtemps, avec la prédécesseur de cette jeune femme qui prend la rubrique. Et là, c'est intéressant parce que je discute avec elle s'appelle Sarah Belwazan, elle me dit, mais tu sais, moi, je ne connais rien au catholicisme, etc. Et je me suis dit, c'est pas mal, elle va avoir un œil neuf. Ça montre que le monde change.
Ça permet d'avoir cette fameuse distance.
Voilà.